On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Pour ou contre avoir un roi? Un texte de Caroline Bouffard paru le 26 mai 2025 dans les as de l'info. De la grande visite s'amène au pays. Le roi Charles III du Royaume-Uni sera de passage à Ottawa lundi et mardi. Et comme à chaque fois qu'un membre de la famille royale vient au Canada, ça crée de la fébrilité et du mécontentement. Des députés du Bloc québécois ont déjà dit qu'ils n'allaient pas assister aux activités du roi. Et toi, tu en penses quoi de l'idée d'avoir un roi au Canada? Voyons ensemble les pour et les contre. Les rois et les reines, pas juste dans les contes de fées. Ça peut te surprendre, mais il y a encore de nos jours des rois et des reines. Pour mieux comprendre comment ça fonctionne, il y a la vidéo « La monarchie, qu'est-ce que c'est ?» dans laquelle Mélanie t'explique tout. Les pour, c'est dans notre histoire. Tu l'ignores peut-être, mais le roi Charles III est techniquement le chef d'État du Canada. Eh oui. Le Canada a déjà été une colonie de l'Empire britannique. Il est ensuite devenu un pays en soi, mais le Canada n'a jamais fait les démarches pour se séparer complètement de la couronne. Les Canadiens demeurent donc des sujets du roi d'Angleterre, tout comme les Australiens ou les Jamaïcains. Ça fait partie de l'identité canadienne. La royauté est intégrée à notre culture depuis longtemps. C'est la reine Élisabeth II, la mère du roi Charles III, qui figure sur les billets de 20 $ et sur toutes les pièces de monnaie au Canada. Il y a une partie de la population, surtout anglophone, qui a un attachement très fort pour la famille royale. Notre pays et le Royaume-Uni partagent une histoire et des traditions. C'est seulement un symbole. Dans la vie de tous les jours, que le roi soit notre chef d'État ne change rien. Charles III ne s'implique pas dans la politique du pays. Ce sont nos élus qui gouvernent. La royauté, c'est seulement un symbole d'une autre époque. En quoi ça dérange? Les contres, ce n'est pas démocratique. Le Canada est un pays démocratique. Ce sont les citoyens qui votent pour élire le gouvernement. Ce n'est pas logique que notre chef d'État soit un roi qui n'est pas élu. Charles III a hérité du trône par sa mère, la reine Élisabeth II. Ça ne reflète pas du tout notre système politique et nos valeurs. Un mauvais souvenir. Au Québec, les gens ont une opinion beaucoup plus négative de la royauté. Ça remonte à un événement important survenu en 1763, la conquête. À cette époque, la Nouvelle-France est devenue une colonie britannique à la suite d'une guerre contre l'Angleterre. Les francophones qui habitaient sur le territoire sont passés sous la domination anglaise par la force. Le pouvoir a longtemps été entre les mains des Anglais qui ont voulu effacer la langue et la culture des Canadiens français. Les peuples autochtones ont aussi beaucoup souffert. C'est pourquoi les élus du Bloc québécois n'assisteront pas aux cérémonies cette semaine. Ça coûte cher. Chaque visite au Canada d'un membre de la famille royale coûte très cher. Et c'est le pays visité qui paie. Cela veut dire qu'en bout de ligne, c'est l'argent des Canadiens qui est utilisé. C'est insultant quand on sait que la famille royale britannique est très riche. On évalue sa fortune à presque 40 milliards de dollars canadiens. toi, es-tu pour ou contre avoir un roi? Les élèves de FACE veulent sauver leur école. Un texte de Marie Bernier paru le 26 mai 2025 dans les As de l'Info. As-tu déjà entendu parler de l'école FACE? C'est une école publique très spéciale, axée sur les arts, qui accueille des élèves de la maternelle au secondaire qui parlent français et anglais. Elle est située dans un bâtiment datant de 1914 au centre-ville de Montréal. On t'a parlé de FACE récemment quand les 1300 élèves de l'école ont chanté une chanson des Cowboys fringants pour protester.
Que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne, c'est que ça m'a fait bien de la peine de te voir partir, ma mignonne.
Le problème, c'est que les vieux bâtiments, ça coûte cher à rénover, et celui de FACE a besoin de gros travaux. Le Devoir a appris que le chantier coûterait 375 millions de dollars. Pour te donner une idée, une école primaire toute neuve qui vient d'ouvrir à Longueuil a coûté 41,5 millions à construire. Alors, 375 millions pour rénover FACE, c'est beaucoup trop d'argent selon le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drinville. À la place, il a décidé d'envoyer les élèves dans deux autres écoles, une primaire, une secondaire, et de vendre le vieux bâtiment. Les élèves ne feront donc plus toute leur scolarité au même endroit. Ça ne passe pas auprès des élèves, des parents et des professeurs. Ils ont peur pour l'avenir de la bâtisse centenaire, mais aussi pour la mission particulière de FACE. Manifestations, concerts, ils se mobilisent depuis des semaines pour trouver d'autres solutions que le déménagement. Mercredi dernier, un groupe d'une soixantaine de personnes est allé à l'Assemblée nationale à Québec pour déposer une pétition de 13 000 signatures. Zia, qui est en troisième année à FACE, était du voyage. Je lui ai posé quelques questions. Zia, quel est ton cours préféré? Art dramatique. En ce moment, on répète le premier épisode de « Dans une galaxie près de chez vous, j'ai fait le capitaine ». Le ministre de l'Éducation dit que rénover ton école coûterait trop cher. Tu en penses quoi? On devrait la rénover en descendant le prix. On n'est pas obligé de tout faire parfaitement. Des groupes de parents proposent d'aider pour que ce soit moins cher. Les enfants aussi pourraient aider. Le ministre préfère envoyer les élèves dans deux autres écoles. Que penses-tu de cette solution? Il n'y a même pas d'auditorium dans l'autre école, alors qu'on est une école de beaux-arts et de musique. Cocologie? Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu as su que ton école allait déménager? La première journée, j'étais en classe et je me suis mise à écrire des messages comme « On veut garder notre école. Écoutez-nous, pas le ministre, sur des papiers pour les accrocher dehors. » L'enseignant m'a demandé d'arrêter, mais j'ai continué. Alors j'ai eu une conséquence. Ensuite, avec deux amis, je suis allé faire signer la pétition dans un parc. On a eu 108 signatures. Mercredi, tu es allé à Québec déposer la pétition. Comment ça s'est passé? C'était impressionnant. La politicienne Jennifer Macaroni, députée libérale de la circonscription où se trouve FACE et qui a parrainé la pétition, s'est chicanée avec Bernard Drinville. Ça m'a donné envie de faire d'autres affiches avec écrit dessus « Notre école n'est pas à vendre ». Ah, et j'ai aussi remarqué qu'il y avait plein de trucs dorés partout. J'ai même vu une poubelle en or. À l'école FACE, les élèves de quatrième année doivent choisir l'instrument de musique qu'ils pratiqueront jusqu'à la cinquième secondaire. Quel instrument choisirais-tu, toi? Des nouvelles de l'Ukraine. Un texte de Camille Lopez, paru le 27 mai 2025 dans les As de l'Info. Eh non, la guerre en Ukraine n'est toujours pas terminée. Il s'est passé près de 1200 jours depuis que la Russie a envahi son voisin. Cette semaine, plusieurs villes d'Ukraine ont été attaquées, mais il y a aussi du positif. Des prisonniers ont pu rentrer chez eux et les appels au cessez-le-feu s'intensifient. Voici les dernières nouvelles. Le plus gros bombardement de toute la guerre. Commençons par la mauvaise nouvelle. Dimanche pendant la nuit, l'armée russe a lancé une attaque aérienne sur plusieurs villes et villages ukrainiens, dont la capitale Kiev, aussi appelée Kyiv. Des drones et des missiles ont été utilisés. C'est la plus grosse attaque du genre depuis le début de l'invasion russe. Malheureusement, au moins 13 personnes sont mortes. Selon le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, des secouristes travaillent fort pour aider les victimes. En réponse à ces attaques, le président des États-Unis, Donald Trump, a vivement critiqué le dirigeant de la Russie, Vladimir Poutine. « Il est devenu complètement fou », a-t-il écrit sur la plateforme Truth. C'est très inhabituel qu'il critique M. Poutine, qu'il considère comme un allié. Un retour très attendu. À la mi-mai, l'Ukraine et la Russie ont accepté de relâcher des prisonniers. Ce sont surtout des militaires qui ont été arrêtés dans le pays rival. C'est un rare moment de collaboration entre les deux ennemis. La fin de semaine dernière, 1000 soldats russes et 1000 soldats ukrainiens sont rentrés chez eux. Ça s'est déroulé en 3 étapes, vendredi, samedi et dimanche. Le dernier échange a eu lieu quelques heures seulement après l'attaque dévastatrice dont on vient de te parler. Des journalistes ont assisté au retour des prisonniers ukrainiens. Ils ont pu voir plusieurs familles qui attendaient leurs proches avec impatience, avec les drapeaux jaunes et bleus de leur pays, des affiches et beaucoup, beaucoup de larmes de joie et de câlins. Ça commence à faire. Pour plusieurs gouvernements, la guerre a assez duré. Beaucoup de pays demande au dirigeant de la Russie, Vladimir Poutine, d'arrêter les attaques contre l'Ukraine. Lundi, le président de la France a exigé un cessez-le-feu le plus durable possible. Jeudi dernier, les ministres des Finances de 7 grands pays, dont le Canada, l'Italie et le Royaume-Uni, ont averti M. Poutine. Ils imposeront des sanctions économiques à la Russie si elle n'accepte pas un cessez-le-feu. Pour le moment, la Russie refuse toujours d'accepter un cessez-le-feu permanent. L'objectif de Vladimir Poutine est de conquérir l'Ukraine. Et toi, suis-tu les nouvelles sur l'Ukraine? Stitch est de retour au cinéma. Un texte d'Emery Kepo, paru le 25 mai 2025 dans les As de l'Info. Un nouveau Lilo et Stitch vient de prendre l'affiche au cinéma. Contrairement au dessin animé de 2002, celui-ci a partiellement été tourné avec de vrais acteurs. Stitch, lui, est fait à l'aide d'effets spéciaux. Enfin, j'ai adoré Lilo et Stitch. Alors j'étais très excité d'aller le voir, je te donne mon avis. Ce nouveau Lilo et Stitch raconte exactement la même histoire que le premier film, à quelques détails près, un peu comme le nouveau Blanche-Neige ou la Petite Sirène. Un visuel vraiment cool. Ce que j'adorais dans le premier Lilo et Stitch, c'était les images. Et avec le second, je n'ai pas été déçu. Les effets spéciaux sont super. Stitch et les personnages extraterrestres sont tellement bien faits qu'on a l'impression qu'ils sont vrais. En plus, les acteurs sont excellents, surtout la jeune actrice qui fait Lilo, Maya Keloa. Elle n'a que 8 ans. Dans le premier film, j'adorais la relation entre Lilo et Stitch. Je les trouvais drôles, attachants, et on retrouve justement cette belle complicité dans cette nouvelle version. Ils sont vraiment mignons, tous les deux. Quelle bonne idée! Jumba et Pickley font partie de mes personnages de dessins animés préférés. Ces extraterrestres sont envoyés sur Terre pour capturer Stitch et le ramener à la Fédération Galactique. Pour ne pas dévoiler leur vraie identité aux humains, le duo se déguise en touriste. Ça m'a toujours fait rire. Dans cette nouvelle version, Jumba et Pickley ne se déguisent plus, mais prennent la forme d'humains grâce à un outil qui permet de copier l'ADN d'une personne. Je trouve cette idée vraiment bonne. Ça change du premier film et ça donne des scènes hilarantes. Par contre, ce qui ne change pas, c'est que Pickley a toujours un look aussi unique. Ce que j'ai moins aimé. Même si j'ai trouvé ce nouveau Lilo et Stitch très bon, il y a certains détails qui m'ont un peu déçu. Il y a de nouveaux personnages, mais ils n'apportent rien à l'histoire. J'ai aussi trouvé que Cobra Bubbles n'était pas aussi cool et important que dans la version originale. J'ai l'impression qu'il a un peu été oublié et c'est bien dommage. J'ai aussi été déçu de ne pas voir Capitaine Gantu, le méchant qui réussit finalement à capturer Stitch dans le premier Lilo et Stitch. Pourtant, avec les effets spéciaux, ça aurait été facile de l'intégrer à l'histoire. En plus, j'aimais comment le personnage du professeur Jumba évoluait dans le premier film. Il ne voyait plus Stitch comme sa création, mais comme un être qui a le droit de vivre sa propre vie. Jumba devenait en quelque sorte plus humain. Ce n'est plus le cas dans cette nouvelle version. Ce sont pour ces raisons que le premier Lilo et Stitch restera toujours mon préféré. Mais j'ai quand même passé un super bon moment et je suis sûr que tu auras beaucoup de plaisir à regarder ce film toi aussi. Huit chiffres surprenants sur la biodiversité. Un texte d'Ophélie Delaunay, paru le 22 mai 2025 dans les As de l'Info. Le 22 mai 2025, c'était la Journée mondiale de la biodiversité. Pour la célébrer, je te propose de découvrir 8 chiffres surprenants sur les êtres vivants qui peuplent notre merveilleuse planète. 3, 2, 1... C'est parti! 2 millions. C'est le nombre d'espèces animales, végétales, bactériennes qu'on connaît, mais les scientifiques estiment qu'il pourrait y en avoir plus de 8 millions qu'on ne connaît pas encore. Comment ça se fait? C'est parce que la plupart de ces espèces sont très petites ou se cachent dans des endroits difficiles à explorer comme le fond des océans. 80%. C'est le pourcentage des plantes à fleurs qui dépendent des insectes pollinisateurs. Abeilles, bourdons, papillons, mouches, pour se reproduire. Ça signifie que sur 10 sortes de fleurs, 8 ont besoin de ces insectes pour transporter leur pollen jusqu'à une autre fleur et ainsi produire des fruits. 1 million. C'est le nombre d'espèces menacées de disparaître sur Terre à cause de certaines activités humaines. Au Canada, il y a plusieurs centaines d'espèces menacées comme le béluga, la baleine noire de l'Atlantique Nord, le caribou, le papillon monarque et même un arbre, le noyer cendré. 10 000 milliards, c'est le nombre de minuscules êtres vivants qui se cachent dans tes intestins. À eux seuls, ton petit et ton gros intestin abritent plus de 1000 espèces de bactéries, de virus, de parasites et de champignons. Mais cette communauté microscopique est bien utile car elle t'aide à digérer. 200 000 milliards, c'est le nombre de krill présents dans les mers et les océans. Ce minuscule crustacé qui ressemble à une crevette est l'espèce animale la plus abondante. En comparaison, les 8 milliards d'humains sont bien peu nombreux. 50%. C'est le pourcentage des espèces terrestres, insectes, plantes, champignons, oiseaux, mammifères, qui vivent dans les forêts, en particulier dans les forêts tropicales. Malheureusement, la déforestation provoque la disparition de l'équivalent de 10 terrains de soccer de forêts tropicales chaque minute. 25%. C'est le pourcentage des espèces marines qui vivent dans les récifs coralliens. C'est énorme, car ces villes sous-marines, peuplées de poissons, escargots de mer et autres créatures marines, ne couvrent même pas 1% des océans. Les récifs coralliens sont très menacés par le réchauffement des océans qui tue les coraux. 50 milliards. C'est le nombre de bactéries qui peuvent vivre dans une cuillerée à thé de sol. Le sol est un milieu de vie très riche. On y retrouve aussi plein de champignons microscopiques, d'insectes, de vers de terre, d'acariens. Et toi, combien d'espèces différentes connais-tu? Il est une fois de précieuses boules au fond de la mer, un texte de Frédéric Lavoie paru le 23 mai 2025 dans les As de l'Info. Il est une fois, à notre époque, tout au fond des océans, des boules en métal bien spéciales. Ces boules, qui ont aujourd'hui la taille de balles de baseball, ont mis des centaines de millions d'années à se former. Lentement, très lentement, au fil du temps, des petits grains de différents métaux venaient se coller à leur surface, les faisant grossir. Parfois, c'était du fer ou du nickel. Et quelques milliers d'années plus tard, du cobalt, du cuivre, du lithium ou encore de l'or et de l'argent. Il y a 50 minuscules années, quand les humains ont développé des technologies pour explorer les zones les plus profondes des mers, ils ont découvert l'existence de ces boules métalliques. Il y en avait des milliers, non, des millions, peut-être des milliards. Un rêve a alors jailli dans l'esprit de plusieurs. Si nous pouvions récolter ces boules métalliques et les ramener à la surface, nous n'aurions presque plus besoin de creuser des mines sur la terre ferme. Cela nous éviterait d'avoir à casser des tonnes et des tonnes de roches pour en extraire quelques grammes seulement de minéraux précieux. Il suffirait de cueillir ces boules, de séparer les différents métaux contenus dans chacune, et bingo! La réalisation de ce rêve comportait cependant plusieurs problèmes. Premièrement, cueillir des balles au fond d'une piscine de 2 ou même 5 kilomètres de profondeur, ce n'est pas vraiment facile, même pour des machines. Aussi, les régions sous-marines où se trouvent la plupart de ces boules n'appartiennent à aucun pays en particulier. Qui donc devrait avoir le droit de les récolter et de vendre leurs minéraux? Mais le plus grand problème, c'est que personne ne connaît les conséquences exactes que pourrait avoir la cueillette de ces boules sur l'environnement. Même pour les plus grands scientifiques, les profondeurs des océans demeurent remplies de mystères. À chaque nouvelle exploration, ils et elles découvrent des créatures qui y habitent depuis des millénaires, mais dont nous ignorions totalement l'existence. La cueillette des boules métalliques pourrait-elle menacer la vie de ces créatures? Impossible de le savoir. Impossible aussi de savoir si ces activités minières empêcheraient les océans de jouer leur rôle dans le maintien de la température de la Terre. Car les fonds marins capturent une grande partie des gaz polluants que les humains produisent en conduisant leurs voitures, en prenant l'avion ou en faisant fonctionner leurs usines. Ils sont donc essentiels pour limiter le réchauffement de la planète. Dans le doute face aux conséquences possibles, les pays du monde se sont ainsi longtemps entendus pour laisser les boules métalliques là où elles sont. Mais, récemment, un président puissant a décidé que c'en était assez. Donald a annoncé qu'il autoriserait la cueillette de ces boules dans les fonds marins qui appartiennent à son pays, et même dans ceux qui appartiennent à tout le monde. Ceux et celles qui appuient cette décision disent que cela aidera à empêcher le réchauffement de la planète. Hein? Ces boules contiennent en effet des métaux rares utilisés dans la fabrication de batteries des voitures électriques et d'autres appareils qui réduisent l'émission de certains gaz polluants. Selon ces gens, au bout du compte, la cueillette des boules métalliques aura des effets plus positifs que négatifs sur la santé de la planète. Ils et elles assurent aussi qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour les créatures marines. Les boules métalliques seront récoltées par de longs aspirateurs sans causer de dégâts, comme si on cueillait des pommes dans un arbre. Mais pouvons-nous vraiment les croire? Est-ce bien l'environnement qui les intéresse ou l'argent qu'ils feront en récoltant ces boules métalliques? Et toi? Penses-tu que nous devrions prendre le risque de cueillir ces boules métalliques? C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe.